Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Et c'est indiqué que c'est ici,
oui, oui, oui.
À l'arrivée, parce que je pense que beaucoup ont dû... Bien, mais tout d'abord, je vous remercie d'être ici. C'est sûrement pas toujours très facile d'arriver jusqu'au collège aujourd'hui. Et d'autre part, peut-être que ce cadre est un peu plus adapté à la situation que le très grand amphi Marguerite de Navarre. J'espère que tout le monde trouvera son chemin jusqu'ici aujourd'hui. Le propos est donc de continuer... l'analyse que je propose dans ce cours, et aujourd'hui à partir d'une question plus particulière qu'on a déjà rencontrée, qui est comment est-ce qu'au début du XVIIe siècle, on peut transformer en une pièce de théâtre Don Quichotte de Cervantes. Et vous vous souvenez que c'est une interrogation fondamentale si on veut essayer de déchiffrer le mystère de cette pièce représentée en 1613 à la cour d'Angleterre, dont il ne subsiste ni manuscrit ni édition imprimée, qui avait pour titre Cardenio. Et à partir de là, les questions que l'on pouvait se poser en réfléchissant sur le titre, ce sont les différentes possibilités qu'offrait l'histoire de Cervantes, soit pour ceux qui la pouvaient lire dans le texte castillan, soit à travers les traductions, en particulier à l'anglais en 1612. Quelles étaient ces différentes possibilités? L'une qui était sûrement de pouvoir extraire de l'histoire, je dis toujours histoire, puisque pour respecter la différenciation de genre qui est présente dans Don Quichotte même, c'est-à-dire entre historia et poésie, entre l'histoire et la poésie, une distinction aristotélicienne, et pour Cervantes, jamais le mot qui désignerait nouvelle ou roman en espagnol, novela, est appliqué. Au Quichotte. Lorsque Cervantes use cette catégorie, c'est par exemple dans ses nouvelles exemplaires, c'est-à-dire des nouvelles au sens qui sont les nôtres, des récits en prose et bref. Donc, essayer d'extraire à l'intérieur de l'histoire du Quichotte un certain nombre de nouvelles qui pouvaient être plus facilement adaptées pour la scène et qui d'ailleurs avaient été reprochées à Cervantes comme étant inutilement introduites à l'intérieur du récit des aventures ou mésaventures de Don Quichotte. On peut penser au curieux impertinent, on peut penser d'une certaine manière aussi à Cardenio. Donc, en quelque sorte, s'emparer du Quichotte pour gommer la figure de Don Quichotte et de ses aventures avec Sancho. Ou bien, à l'inverse, une des possibilités était sans doute d'essayer de privilégier le personnage de Don Quichotte, cette histoire d'un décalage chronologique entre un personnage qui vit en un temps qui n'est pas le sien et qui projette sur le monde tel qu'il est ses rêves ou ses lectures des romans de chevalerie. C'était sans doute ce qu'avait pu inspirer cette pièce que j'ai rapidement commentée, un peu plus longuement dans le séminaire, c'est-à-dire Le chevalier au pilon flamboyant, une pièce attribuée maintenant à Beaumont, et qui est comme le décalque parodique de la parodie, puisqu'il s'agit là de suivre, au moins pour partie, dans cette pièce, les aventures d'un épicier errant, Heron Grosser, qui décalque évidemment celle de Don Quichotte. Ou bien encore, il était sans doute une des possibilités résidait dans le fait d'articuler, comme le fait Cervantes, à la fois l'histoire du chevalier errant et de son écuyer, et l'histoire des amours et des amours de Cardenio et Lucinda, Fernando et Dorothea, qui se nouent, comme je le rappelais la fois dernière, dans le Quichotte à partir de rencontres. Lorsque Don Quichotte rencontre Cardenio pour la première fois dans la Sierra Morena, lorsque, pour une seconde fois, Cardenio est rencontré, mais cette fois-ci par le curé, le barbier et Sancho, qui sont rentrés dans la Sierra Morena avec l'espoir d'en faire sortir Don Quichotte et de le ramener dans son lugar, dans son village, dans son lieu, ou encore les mêmes lorsqu'il rencontre Dorothea, qui pousse un peu plus loin l'histoire qui était celle des personnages de la nouvelle amoureuse. Il n'y a aucune réponse possible pour la pièce anglaise de 1613 entre ces trois hypothèses. Un Cardenio sans Don Quichotte, sûrement pas un Don Quichotte sans Cardenio, ou bien Cardenio et Don Quichotte à la fois dans la même pièce. Mais en raisonnement peut-être mené par comparaison, c'est-à-dire en s'attachant à des pièces qui, elles, existent, qui sont lisibles aujourd'hui, qui ont été publiées au XVIIe siècle et dans des dates qui sont soit antérieures, soit postérieures à la pièce anglaise, mais de peu. Et aujourd'hui, je voudrais porter l'attention sur la première pièce qui a sans doute été inspirée ou se présente comme une adaptation scénique du Quichotte de Cervantes, c'est-à-dire une pièce d'un dramaturge espagnol né à Valence, Guillén de Castro, qui, sans doute entre 1605 et 1608, est plutôt 1605 ou 1606, fait représenter une comédia, qui est le mot qui désigne en Espagne ce genre théâtral qui est à la fois dramatique et comique, sur le modèle en quelque sorte, proposant un modèle à ce que serait la tragicomédie, fait représenter une comédia qui a pour titre « Don Quixote de la Mancha ». Don Quichotte de la Manche. Guillén de Castro est un écrivain, un dramaturge et poète né à Valence et qui est fameux évidemment pour une autre pièce que son Don Quixote de la Mancha, c'est-à-dire cette pièce sur les Mocedades del Cid, la pièce qui va inspirer et parfois très littéralement dans certains de ses vers, le Cid de Corneille. Don Quixote de la Mancha est une comédia comme il se devait, en trois actes, tres jornadas, trois journées, et qui sera publiée, comme on le faisait dans le théâtre espagnol, un peu plus tard, en 1618, dans un ouvrage qui est rassemble 12 pièces de Guillén de Castro. Primera parte de las comedias de Don Guillén de Castro, Valence, 1618, réédité en 1621-1624. C'était une habitude dans la publication des pièces espagnoles, des comedias, de rassembler 12 pièces à l'intérieur de volumes en général, ou presque toujours in quarto, et qui formaient ce que l'on appelle une parte. Alors, toutes les solutions étaient possibles, c'est-à-dire que comme dans le cas de Guillén de Castro, il pouvait s'agir du rassemblement de pièces écrites par un même dramaturge, et ici il y a 12 pièces de Guillén de Castro, parmi elles Las Mocedades del Cid et Don Quixote de la Mancha, et une autre pièce que Guillén de Castro bâtit à partir du Quichotte, El Curioso Impertinente. D'autres fois, il s'agissait de partes mêlées dans lesquelles des pièces de différents dramaturges pouvaient être rassemblées. Alors, dans le cas qui nous intéresse, cette pièce est donc publiée en 1618 dans la première partie de Guillén de Castro avec le titre Don Quixote de la Mancha. Les derniers vers de la pièce laissent supposer que peut-être elle avait été désignée, circulée, représentée avec un autre titre ou peut-être sous deux titres, puisque les derniers vers sont, je vais souvent citer en espagnol et ensuite traduire, « Y de los hijos trocados, aquí la comedia acaba, y del caballero andante, Don Quixote la Mancha, et des fils échangés, de los hijos trocados, finit ici la comédie, et du chevalier errant, Don Quichotte de la Manche. » On a donc la suggestion que la pièce pouvait avoir un double titre, comme c'est très fréquent dans le théâtre du XVIIe siècle. D'un côté, Don Quichotte de la Mancha, de l'autre côté, Les Fils échangés. Et je reviendrai sur ce point qui est capital pour comprendre la pièce, puisque c'est l'un des écarts essentiels que prend Guillén de Castro par rapport à l'histoire de la nouvelle telle qu'elle est contée dans Quichotte. Ce qui est clair dès que l'on ouvre la pièce, c'est que l'histoire principale qui est mise en scène dans cette comédia, très précoce, comme vous le voyez, 1605, 1606, pas plus tard que 1608, c'est l'histoire de Cardenio et Lucinda et de Dorothea et de Fernando dans le texte de Cervantes, mais ici nommé le marquis au sens du fait, par le fait qu'il est le fils du duc auprès duquel Cardenio a été envoyé. Et dès le premier acte, cette Commedia de Guillén de Castro manifeste la transformation fondamentale apportée à la nouvelle qui lui sert de source, si on admet entre guillemets que Cardenio dans Don Quichotte peut être considéré comme une nouvelle. Puisque ici, la plus fondamentale est celle qui fait au commencement de la Commedia de Cardenio, non pas, vous vous en souvenez peut-être, le fils d'une famille noble, andalouse, mais ici le fils d'un paysan nommé Lisardo. Et de ce fait, il y a une inégalité de conditions qui est présente dans les deux couples amoureux, ou dans les deux amours, c'est-à-dire d'un côté l'amour que, comme chez Cervantes, le fils du duc, ici le marquès Fernando chez Cervantes, porte à la fille de paysan qu'est Dorothea, avec ce déséquilibre social d'un marquis amoureux d'une bergère, et de l'autre côté, un déséquilibre symétrique est introduit par Guillén de Castro entre Lucinda, fille de noble, et Cardenio, fils de paysan. Et du coup, on a inscrit dès le point de départ de cette adaptation théâtrale une question ou plusieurs questions fondamentales pour les sociétés du XVIIe siècle, par exemple cette question de la possibilité ou de l'impossibilité des alliances inégales entre des filles de nobles et des fils de paysans, ce serait dans le cas de Lucinda et Cardenio, ou bien entre des filles de paysans et des fils de nobles, et ce serait le cas de Dorothea et du marquis ou Fernando dans l'histoire écrite par Cervantes. Et du coup, Guillén de Castro va jouer avec ces déséquilibres sociaux dans les deux couples. Dès le commencement de la pièce, la première scène est une scène dans laquelle Cardenio sauve Lucinda, dont le cheval s'est emballé puis a trébuché, et Lucinda est en train de tomber en fait dans les bras de Cardenio. Et un peu plus loin, toujours dans ce début de la Commedia, après avoir sauvé Lucinda de cette chute terrible, il va sauver le duc d'une attaque qui est faite, sans doute pour donner spectacle assez fort sur la scène du Corral des Comédiens, qui est attaqué par un ours sauvage. Et là encore, c'est Cardenio qui, par son courage, va tuer cette bête féroce attaquant le duc. Mais dans cette première scène, où donc Cardenio et Lucinda sont ensemble et reconnaissent l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, Cardenio, du fait de cette condition sociale basse, est très réticent à avouer son amour à une jeune dame dont le rang, celui de Lucinda, fille d'aristocrate, est sans commune mesure avec son propre état. Et de la même manière, il y a une résistance de Dorothea aux avances du marquis pour cette même situation de déséquilibre social. Elle lui déclare, donc dans le cas du couple Dorothea-Marquis, « Mais je sais l'humilité de mon état et sa bassesse, et je connais ton Altesse si proche de la majesté. Je suis la fille d'un paysan, même si sa fortune est étonnante, et toi d'un grand d'Espagne, tu es le fils aîné. » Et l'on voit ici que tout le vocabulaire joue sur ce déséquilibre. « Pero advierto la humildad de mi estado y mi bajeza, de la bassesse de mon état, et je considère tu altesa, ton altesse tan cerca de majesta, parce que le marquis, fils du duc, est lui-même trop proche du roi. « Hija soy de un labrador, je suis la fille d'un paysan, même si sa richesse est extraña et surprenante. » Mais toi, d'un grand d'Espagne, de un grande d'Espagna, eres el hijo mayor, tu es le fils aîné d'un grand d'Espagne, donc en position de lui succéder. Et si le marquis arrive à triompher des craintes de Dorothea, c'est en lui promettant le mariage, il lui déclare « Tuyo et de ser, y de ti naceran mis herederos »« Je dois être à toi et de toi naîtront mes héritiers ». Et en parallèle avec ce dialogue autour de l'inégalité de la condition vaincue uniquement par la promesse de mariage, on a l'engagement de Lucinda qui vainc l'inquiétude, la réticence de Cardenio qui connaît son infériorité. Elle lui déclare « Seras mio, y seré tuya »« Tu seras mien et je serai tienne ». Ce qui vainc finalement, triomphe, de l'inquiétude de Cardenio qui lui rappelle pourquoi il était si hésitant à lui déclarer un amour pourtant puissant. Comme je savais qui je suis et à qui j'aspirais, ma prétention me glaçait et ton feu me brûlait. Como lo que soy sabía y a quien eres aspiraba, en mi pretensión me helaba, j'étais gelé, j'étais en tu fuego. Mais incendia. Vous voyez que les vers des comédias sont des vers assez brefs, puisqu'il s'agit toujours d'octosyllabes, généralement composés, mais pas seulement, sous une forme dont je parlerai un peu plus tard, c'est-à-dire la forme du verbe redondia, c'est-à-dire où il y a des rimes A, B, B, A. Et c'est autour de cette structure en quatre vers, où le premier et le quatrième sont assonancés, et le deuxième et le troisième le sont eux aussi, que se donne ce rythme très rapide des vers de comédia et la possibilité de jouer sur ces inversions, ces contrastes de termes ou de formes, comme par exemple ici, seras mio y seré tuya, tu seras mien et je serai tienne. Donc une invention fondamentale de Jean de Castro qui est de changer la condition de Cardenio et d'introduire ce thème de la dissymétrie des conditions dans les deux couples d'amants, alors que chez Cervantes, évidemment, elle n'est présente que dans le rapport entre Fernando et Dorothea. Et en même temps que Guillén de Castro introduit cette thématique, comme je le disais, fondamentale dans les sociétés d'État et d'ordre de l'Ancien Régime, il en montre l'incongruité dans la mesure où, dès le premier acte, les personnages se conduisent autrement qu'ils le devraient en fonction ou en relation avec leurs conditions sociales. Comme je le disais, dans le commencement, le duc a été sauvé des griffes de ce tour se déchaîner, non pas par son fils, le marquis, qui était présent, qui n'a rien fait, mais par Cardenio, le fils de paysan. Et d'emblée se situe à la fois l'idée que les conduites de ce fils de paysan et de ce fils de grande Espagne ne correspondent pas à leurs conditions, ce qui était un autre des exigences des sociétés d'Ancien Régime, où les conduites, les comportements sont ajustés sur le rang. Et d'autre part, est placé d'emblée aussi le rêve, le songe, le désir du duc, mais pas du seul duc, d'un échange des conditions. Comme si finalement, puisque les comportements ne sont pas adéquats aux conditions, les conditions devraient l'être aux comportements. Et dès le départ, il y a chez le marquis, chez le duc, ce sentiment de détestation pour celui qui est apparemment son propre fils, et d'autre part, cette estime pour Cardenio, fils de paysan, qui se conduit comme un noble. Et déclare le duc, « Ah, par le ciel, si je pouvais échanger vos deux natures, tu peux être certain, il s'adresse à Cardenio après qu'il l'eût sauvé, qu'avec un cœur furieux et fidèle, je te changerai en lui, et lui, je le changerai en toi, car je ne sais ce qui est la cause de cela, mais personne n'a eu un fils tant détesté et un serviteur tant aimé. Si yo pudiera, cielos, trocar, et on retrouve les hijos trocados du titre de la comédia si on suit les derniers vers, trocar sus naturaleza, si je pouvais échanger leur nature, y está seguro de mí, tu peux être sûr de moi, que a ti te trocará en él, je te changerai en lui, et à elle les trocara en ti, et à lui je le changerai en toi. Parce que no sé lo que ha causado, pero ninguno ha tenido hijo más aborrecido, ni criado más amado. Le fils aborrecido, détesté, le criado, fils de paysan, amado, aimé. Alors on voit que un des verbes clés, si l'on faisait un relevé quantitatif, on verrait que c'est un des mots qui revient le plus souvent, c'est ce terme de trocar qui peut signifier à la fois changer ou échanger, et c'est le même verbe, trocar, qu'utilise Lucinda pour regretter que la condition de Cardenio ne soit pas haute, c'est-à-dire qu'il ne soit pas lui aussi fils de noble, même si cela, pour autant, ne la fait pas renoncer à son amour pour lui. No me culpes si he llorado y dudado, que no fuera honrada si no tuviera este sentimiento honrado, porque yo quisiera aquí, por no ofender mi nobleza, trocar su naturaleza, pero no dejarte a ti. Ne m'accuse pas si j'ai pleuré, si j'ai douté. Je n'aurais pas d'honneur si je n'avais pas ce sentiment honorable, c'est-à-dire d'avoir cette inquiétude face à ce déséquilibre des conditions. Parce que je désirerais maintenant, pour ne pas offenser ma noblesse, changer ton état, mais je ne veux pas t'abandonner. Et on voit ce type de conflit qui est présent en Lucinda entre une forme de l'honneur qui suppose l'égalité des conditions dans l'échange amoureux ou matrimonial, et de l'autre côté, cet sentiment, cette passion qui fait que malgré cette distance qui l'a fait douter, qui l'a inquiété, qui l'a fait pleurer, si he llorado, pour autant que son amour reste constant et fort. Et c'est un des thèmes qui, évidemment, est présent dans beaucoup de comédias, c'est-à-dire la tension qui peut exister entre l'honneur tel qu'on le ressent ou tel qu'il vous est renvoyé par l'autre, et qui suppose un certain nombre de conduites, de comportements, et de l'autre côté, le sentiment intérieur qui doit composer avec ce sentiment de l'honneur. Même si, j'ai pu le voir dans le texte de Guillaume de Castro, les mots peuvent être équivalents, si l'on suit une très vieille analyse d'un critique du XXe siècle, Américo Castro, il portait l'attention sur le fait que dans les comédias, beaucoup des conflits ou des tensions entre les individus ou dans les individus se lient à deux définitions de l'honneur qui, pas toujours, parce que les mots peuvent être synonymes, étaient désignés par deux mots différents, l'un qui est « honra », et qui signifie l'honneur tel qu'il vous est renvoyé par le regard des autres. Et les termes équivalents avec honra sont reputación, opinión, l'opinion des autres, la réputation, la fama, la renommée. Et donc un sentiment de l'honneur qui est construit par le regard de l'autre. Et d'autre part, dans certains emplois, pas toujours, honor, qui lui renverrait à ce sentiment qui est celui-là de Lucinda, c'est-à-dire un sentiment de sa dignité intérieure, indépendamment, un sentiment intérieur de la dignité, indépendamment de la fama ou de la réputation, même si l'un et l'autre doivent aller de pair. Et la honra doit venir reconnaître el honor. Alors, il n'y a pas une systématique usage de ces deux termes avec une telle différence. Honra construit par le regard de l'autre et honor comme un honneur ressenti en soi-même. Mais néanmoins, même si le vocabulaire n'est pas toujours adéquat à ces deux formes de l'honneur, néanmoins, c'est là une thématique tout à fait puissante dans les comédias et qu'on retrouverait ici dans cette phrase de Lucinda. Et donc, du coup, où la résolution serait dans ce rêve, ce désir de trocar, d'échanger, de changer la condition de Cardenio. Et c'est une conversion inverse, puisque là, dans ce cas-là, Lucinda rêve d'un Cardenio, fils de noble, qui pourrait donc du coup lever tous les doutes ou toutes les inquiétudes qu'elle a face à l'inégalité des conditions dans leur amour. C'est un sentiment parallèle mais inverse qui existe lorsque Dorothea, effrayée par la noblesse du marquis, même après qu'il lui a promis le mariage, rêve qu'il puisse, qu'il soit un paysan. Et ainsi l'âme qui t'adore désirerait, si cela était en mon pouvoir, faire de toi un paysan, elle s'adresse donc au marquis, plutôt que de faire de moi une dame. On voit donc qu'avec la comédia de Guillén de Castro s'empare de la thématique de Cardenio du Quichotte, mais pour mettre sur la scène les tensions qui résultent, ou les scandales qui naissent, d'une discordance entre la conduite et la condition, entre les sentiments et l'État, puisqu'à la noblesse de cœur du paysan Cardenio s'oppose la vilenie, la couardise du fils du duc. Et dès le départ, les personnages ou les spectateurs se rendent compte qu'il y a là une anomalie qui peut être que le résultat d'une erreur de la nature, et vous en devinez le dénouement, c'est évidemment que los hijos trocados, le fils du duc était en fait celui qui passait pour fils de paysan, et à l'inverse, le marquis était en fait de condition vile. On a donc là une thématique qui permet à Guillén de Castro à la fois de faire son profit de l'histoire, de la nouvelle, telle qu'il la rencontre ou la recompose à partir des chapitres de Don Quichotte, et en même temps de se situer, comme dans beaucoup de ses autres comédies, on peut même penser dans un sens au Moceades du Cid, à cette thématique du rapport si obsédant dans des sociétés qui sont juridiquement codifiées dans la différence des états sociaux entre ce qui est le rang assigné dans cette hiérarchie sociale fixe et juridiquement codifiée, et d'autre part les conduites, les comportements, les sentiments qui doivent s'ajuster avec ces états. Et lorsqu'il y a discordance, il y a scandale. Alors, on entre dans la Commedia de Guillén de Castro, qui normalement a pour titre Don Quijote de la Mancha, jusqu'à la 12e scène, sans que Don Quichotte soit apparu le moins du monde. C'est-à-dire que toute l'intrigue qui a recomposé l'ordre, dans l'ordre chronologique, ce qui, vous vous souvenez, nous est raconté dans le Quichotte, rétrospectivement par les différents personnages lorsqu'ils font le récit de leur existence et de leurs aventures, pendant 12 scènes, le Don Quichotte de la Mancha de Guillén de Castro est tout entier consacré à ses relations, Cardenio, Lucinda, Marquès, Dorothea. Et Don Quixote apparaît à la scène 13e de la Commedia, dans la primera jornada, dans le premier acte, et l'indication scénique qui est présente dans l'édition imprimée de 1618, indique entre Don Quichotte, monté sur Rocinante, et dans le costume qui est décrit dans son livre. Sale Don Quixote en Rocinante, sale, il sort des coulisses pour entrer sur la scène, et el vestido en Rocinante y el vestido como lo pintan en su libro, comme on le décrit dans son livre. Alors, il n'y a pas de peinture au sens propre dans les Don Quichotte de 1605, et donc il n'y a aucune image au sens d'une illustration dans les éditions qui pourraient supporter cette idée de como lo pintan en su libro, sinon que sans doute la référence est faite à la description de Don Quichotte telle qu'on la rencontre au deuxième chapitre du livre de Cervantes, vous vous rappelez, publié deux fois en 1605 à Madrid avec deux éditions, et aussi deux éditions à Lisbonne et une édition à Valence. Lorsque Don Quichotte apparaît au deuxième chapitre, lors de sa première sortie, aux deux dames, ce qu'il prend pour des dames, et qui sont en fait deux prostituées ou filles de joie, qui sont postées à la porte de l'auberge qu'il prend pour un château où il se fera adouber chevalier dans une parodie ridicule des adoubements chevaleresques. Et la description de Cervantes était la suivante. Celle-ci, c'est-à-dire les deux jeunes filles, voyant venir un homme armé de la sorte, avec lance et bouclier, furent remplis d'effroi et prêts à rentrer dans l'auberge. Mais Don Quichotte, comprenant leur effroi à leur fuite, leva sa visière de carton, vous vous souvenez qu'il avait, pour s'armer au moment de quitter son domicile, ou au moment où il s'est baptisé lui-même, Don Quixote de la Mancha, avait à la fois repris des vieilles armes qu'il avait dans sa maison, et d'autre part s'était construit ce casque de carton. Et découvrant son sec et poussiéreux visage, leur dit d'un air aimable et d'une voix posée. Il y a là un élément de description physique, descubriendo su secco y polvoroso rostro, dit le texte de Cervantes, qui est beaucoup plus limité que ce que la stéréotypisation postérieure du personnage qui va imposer une figure de Don Quichotte qui traverse le temps et les espaces laisse penser, mais qui néanmoins permettait d'avoir cette référence par Guillén de Castro dans l'indication scénique à une description de Don Quichotte comme lo pintan en su libro, et qui était sans doute dès le départ ce Don Quichotte sec, maigre, qui sort armé de façon ridicule, soit parce qu'il a des armes qui appartiennent à un temps passé, soit parce qu'il s'est construit lui-même ce casque de carton, et donc du coup donnait une matière pour l'incarnation sur la scène du choral, de comédia, du personnage. Et donc, du coup, aussi, dans cette indication scénique, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant et important. « Como lo pintan en su libro », même si cette indication est présente dans une édition de 1618, donc à distance de la représentation de la pièce, ce qui est frappant dans le texte de Guillén de Castro, c'est qu'il établit d'emblée une connivence entre sa pièce et que la lecture, la connaissance du livre paru en 1605. Et la comédia, même si elle peut être vue par quelqu'un qui n'a jamais ouvert Don Quichotte, en fait, tient comme ressort très fréquent de jouer avec une connivence sur des lecteurs devenus spectateurs qui reconnaissent dans la pièce de Guillén de Castro des allusions, des parodies, des jeux avec ce qu'ils ont rencontré dans la lecture du Don Quichotte publié en 1605. Par exemple, les allusions à deux reprises avec le nom véritable, si j'ose dire, de Don Quichotte, qui fait l'objet au premier chapitre d'une discussion dans laquelle Cervantes parodie les discussions érudites, lettrées, savantes à propos de l'onomastique, puisque ce Don Quichotte de la Manche, c'est le nom qu'il se donne, a un autre nom, qui est celui, entre autres, que reprend Guillén de Castro comme Quijada, mais vous vous souvenez qu'à la fin de la seconde partie du Quichotte, Cervantes revient à un autre nom qui avait été proposé parmi ses controverses d'érudits, c'est-à-dire Alonso Quijano. Et il y a là toute une vacillation autour du nom de celui qui va s'appeler lui-même Don Quijote de la Mancha, Quijada o Alonso Quijano. Et donc, il y a deux fois le nom cité et qui fait référence, évidemment, pour qui a lu le livre, à cette discussion entre les érudits. Et avec cette choix d'une des leçons, Quijada, et non pas celle que retiendra Cervantes dans la cohérence des deux parties du Quichotte, c'est-à-dire Alonso Quijano. D'autre part, il y a l'allusion évidemment aussi à une des deux scènes les plus fameuses de la première partie, très tôt transformée en lieu commun. Vous vous souvenez, la première, c'est évidemment la scène du combat contre les moulins à vent, présent dans ces pièces anglaises dès 1607 ou 1608. L'autre, c'est évidemment pour les Espagnols la destruction de la bibliothèque, le bûcher bibliographique qui est fait par le curé et par le barbier. Lorsque Don Quichotte est endormi, ils entrent dans la pièce où il garde ses livres de chevalerie et se mettent à les brûler quasi tous, avec quelques exceptions, mais rares. Et l'allusion ici est faite sous la forme suivante, qu'une discussion à un moment donné dans la Commedia s'engage entre le duc et le curé, et le duc lui dit qui ne brûlerait pas de tels livres, qui no quema tales libros, parce que le curé expliquait la folie de Don Quichotte à partir de cet excès de lecture et de cette confusion entre monde du texte et monde du livre. Et le curé lui répond, par ma main, ils l'ont déjà été, que ya por mi mano lo están, c'est-à-dire ici le fait qu'il y a une allusion directe, sans développement, sans avoir à décrire la scène à ce moment du chapitre 6 et 7, lorsque il y a le peut-être en référence et les commentateurs s'y sont attachés avec les bûchers de l'Inquisition, lorsque l'Inquisition brûle les livres hétérodoxes ou hérétiques. Il y a ce bûcher de la bibliothèque de Don Quichotte. Alors, la mécanique de la pièce joue donc sur des mémoires de lecture, c'est-à-dire les spectateurs comme sont considérés comme ayant lu ou connaissant déjà suffisamment l'histoire racontée par Cervantes pour pouvoir prendre plaisir et amusement avec les indices qui leur permettent de reconnaître et de faire venir à leur mémoire d'une manière beaucoup plus longue que ce qui est dit dans le texte même de la Commedia des épisodes du Quichotte. Et ce qui m'a semblé, c'est que finalement ce que fait Guillén de Castro avec ses spectateurs, c'est-à-dire leur convoquer dans leur mémoire ce qui a été préalablement lu, est le même mouvement que ce que fait Don Quichotte dans l'histoire de Cervantes lorsqu'il fait venir à sa mémoire les textes des romans de chevalerie pour donner sens aux aventures, ou plutôt mésaventures, aux infortunes qui l'accablent. C'est ce qu'on voit en parallèle parce que la scène est présente à la fois, bien sûr, dans le Quichotte de Cervantes, au chapitre 5, et d'autre part, dans la Commedia de Guillén de Castro, à la fin du premier acte. C'est-à-dire lorsque Don Quichotte se trouve, comme Sancho, battu par, dans ce cas de la Commedia, les serviteurs du marquis. Et dans le cas de la de l'histoire de Cervantes, lorsqu'il se trouve battu par les garçons de mule des Tolédans qu'il avait attaqués comme s'ils étaient des cibles pour le chevalier errant. Et dans les deux cas, il y a le même mécanisme. On peut se référer au texte donc, du Quichotte, dans ce moment où, fin de chapitre 5, Cervantes, Don Quichotte a été rossé par ses garçons muletiers. Voyant donc qu'il ne pouvait remuer, il s'avisa de recourir à son remède ordinaire, qui était de penser à quelque épisode de ses livres, et sa folie lui remit en mémoire celui du Baudouin et du marquis de Mantoue, lorsque Carlotto eut laissé le premier blessé dans la montagne. Histoire connue des enfants, non ignorée des jeunes gens, célébrée et même crue des vieillards, et néanmoins pas plus vraie que les miracles de Mahomet. Celle-ci lui parut donc s'appliquer à merveille à la mauvaise passe où il se trouvait, et ainsi, donnant tous les signes d'une grande douleur, il se mit à se rouler par terre et à dire d'une voix affaiblie cela même que disait, dit-on, le chevalier blessé, c'est le chevalier Baldovinos, dans la forêt. « Hélas, où donc es-tu, madame? N'as-tu compassion de mon mal? Ou bien tu l'ignores, madame, ou tu es fausse et déloyale? » Et il continua de la sorte le romance jusqu'à ces vers qui disaient « Ô noble marquis de Mantoue, mon oncle et seigneur par le sang. » On voit que dans ce moment du Quichotte, ce qui est la possibilité pour Don Quichotte, à l'intérieur de sa folie, de donner sens à ce qui lui survient, c'est de convoquer dans sa mémoire des scènes des romans de chevalerie, ou dans ce cas-là, dans Romance, c'est-à-dire un poème qui narre la même histoire que les romans de chevalerie, cette histoire ici du fils de Charlemagne qui a blessé et laissé dans la montagne Baudouin, accompagné du marquis de Mantoue, donc de convoquer ce souvenir de lecture comme mémoire personnelle qui peut donner sens au présent. C'est une, enfin, on pourrait d'ailleurs interpréter, j'avais essayé de le faire dans un texte, ces jeux avec la mémoire tels qu'on les trouve dans le Quichotte, à partir d'une référence au très grand livre de Paul Ricoeur, philosophe décédé il y a quelques années, qui a pour titre « Mémoire, histoire, oubli », et dans lequel différentes modalités de la mémoire que l'on retrouverait à l'état pratique et littéraire chez Cervantes sont convoquées ici, par exemple, ce travail de la réminiscence, puisque le verbe espagnol est « traer a la memoria », donc faire venir à la mémoire, rechercher dans cette bibliothèque de mémoire, qui est la seule dont Quichotte peut disposer à partir du moment où sa bibliothèque de papier a été brûlée, de faire venir les éléments qui donnent sens au présent. Alors, dans la Commedia de Guillén de Castro, fidèle lecteur de ce passage, pour une autre situation, puisque dans ce cas-là, le Don Quichotte du théâtre a été rossé par les valets du marquis, pour avoir pris le parti de Dorothea lorsqu'il les a rencontrés au cœur d'une sorte de dispute. Ce sont les mêmes vers du même romancé du marquis de Mantoue qui constituent sur la scène les premiers mots du chevalier gisant. Et il déclare « Je ne suis pas Don Quichotte, je suis un des neveux du marquis qui chercha le rivage de la mer pour chasser, je suis Baldovinos, et ainsi, par le mauvais enchantement de ce gourdin, si sain et sauf, j'étais Don Quichotte, blessé, je suis Baldovinos. » Donc la même identification pour donner sens au présent à un héros de roman ou romance de chevalerie, qui est ce Baldovinos, en français Baudouin, et qui a été blessé gravement par Carlotto, ou Charlot, le fils de Charlemagne. On voit que ce jeu est un jeu existentiel, puisque la mémoire des livres donne sens à l'existence. Et Sancho, qui dans la pièce de Guillén de Castro, joue le rôle, évidemment, d'un des personnages classiques de la Commedia, c'est-à-dire le personnage burlesque, risible, mais en même temps avisé dans un sens, entre dans la folie de son maître, dans cette identification entre lui et Baldovinos, lorsqu'il déclare « No soy Don Quijote yo, soy uno de los sobrinos del marqués ». Soy Baldovinos, il entre dans son jeu et lui aussi échange sa personne contre une autre personne puisqu'il se déclare l'écuyer de cet infant Baudouin infortuné. Tu muerte quiero llorar, Baldovinos, mi seigneur. Ta mort, je veux pleurer, Baldovinos, mon seigneur. Et on voit un Sancho qui entre dans le jeu de Don Quichotte pour lui donner la réplique avec la même folie, mais lui étant conscient qu'il s'agit là d'un jeu. Alors, si on admet cette hypothèse selon laquelle, finalement, Guillén de Castro joue avec les souvenirs de lecture des spectateurs comme, dans un sens, Don Quixote joue avec ses propres souvenirs de lecture, c'est-à-dire pour déchiffrer le sens des mots et des choses, la question qui se pose, c'est comment peut-on supposer que, sitôt, 1605, 1606, pas avant 1608, le Quichotte de Cervantes était si présent dans les lectures et dans les mémoires que les mots prononcés sur la scène pouvaient évoquer, pouvaient faire venir à la mémoire des spectateurs la signification de la référence, les remettre dans un sens dans l'histoire qu'ils avaient lue et d'autre part leur faire goûter la subtilité avec laquelle Guillén de Castro fait allusion à tel ou tel passage. Romance del Marqués de Mantua, le nom Quijada de Don Quichotte. Et donc voir comment ces spectateurs pouvaient se divertir aux citations littérales et en même temps s'amuser à reconnaître des allusions. Ce qui suppose qu'évidemment, très tôt, le Quichotte a reçu ce statut que Don Quichotte lui-même donne à certains romans ou romances de chevalerie, c'est-à-dire d'être connu des enfants, non ignoré des jeunes gens, célébré et même cru des vieillards. Dans ce passage du Don Quichotte appliqué au roman, c'est du marquis de Mantoue, et qui, vous le voyez, comme très souvent, lorsque les textes du siècle d'or désignent leur public, utilisent une figure tout à fait classique, à la fois folklorique et lettrée, c'est-à-dire celle du degré des âges, puisque l'on voit que et c'est un thème qui est très récurrent dans Don Quichotte, lorsque l'on parle de Don Quichotte, lorsque dans la deuxième partie, les personnages commentent le succès du récit de leurs aventures tel qu'ils ont... Il a été construit dans la première partie. Et ici, cette gradation entre les degrés des âges est tout à fait frappante avec la présence chez les niños, mozos, viejos. Les enfants, les adolescents, les jeunes gens et les anciens. C'est un motif qui vient directement d'un des textes préliminaires de la grande tragicomédie qui est La Celestina, publiée au tout début du XVIe siècle, et dans laquelle, là aussi, différentes réceptions, usages, compréhensions du texte sont référées avec les différences des âges. Et c'est un thème omniprésent dans la littérature du XVIe et du XVIIe siècle. Alors, comment construire cette hypothèse qui fait que Guillén de Castro s'adresse à des spectateurs qui ont été lecteurs dans leur grand nombre, pas forcément tous, mais dans leur grand nombre, du Quichotte de Cervantes. Alors, la première réalité qui permet d'étayer cette perspective, c'est évidemment ce que j'ai déjà signalé, c'est-à-dire la densité et la rapidité des rééditions. Puisque si l'on se place en seule année 1605, on a 5 éditions, 2 à Madrid, 2 à Lisbonne, 1 à Valence. On a une édition en 1607 à Bruxelles, on a une édition en 1608, la troisième de Madrid, et l'on voit que toutes ces éditions qui sont publiées dans les domaines du roi très catholique, et en particulier, sauf une, celle de Bruxelles, dans la péninsule ibérique, on peut créer une circulation importante du Quichotte, si l'on admet, comme on a pu le faire à partir des traités sur l'art de l'imprimerie tels qu'ils sont publiés au XVIIe siècle par certains hommes de l'art, que le tirage moyen d'une édition est entre 1250 ou 1500 exemplaires. Une de ces éditions de 1605 peut avoir un intérêt particulier par rapport à la pièce de Guillén de Castro, puisque je rappelais que Guillén de Castro est un dramaturge valencien, que l'édition de la primera parte de ces comédias, 12 comédies, dont Don Quichotte de la Manche, a été faite en 1618 à Valence et par un libraire éditeur qui s'appelle Felipe May. Et l'on est tout à fait frappé par le fait que dans l'édition de 1618, il y a avant chacune des comédias un bois gravé qui s'ajuste avec le thème de la comédia. Et ce bois gravé, qui est présent en 1618, est celui que le même imprimeur, Felipe May, M-E-Y, avait utilisé en 1605 pour le frontispice de son édition de Don Quichotte, et qu'il a réutilisé en 1616 pour le frontispice de son édition de la seconde partie de Don Quichotte. Et cette image est intéressante parce que, à la différence de ce qui est dit « como lo pintan en su libro », ce qui est représenté n'est pas du tout Don Quichotte dans une portrait au vrai, mais est un bois gravé qui représente un chevalier monté sur un cheval, avec un chevalier large, avec un casque très empanaché, la lance en avant. C'est-à-dire en fait qu'en 1605, puis 1616, puis 1618, Felipe Mey a réutilisé pour le Don Quichotte un bois gravé qu'il avait sans doute utilisé pour une édition d'un roman ou d'un romance de chevalerie antérieurement. Ce qui fait que lorsqu'on pense à la représentation iconographique de Don Quichotte, le personnage, on peut penser rétrospectivement à partir de notre présent à celles qui vont donner une figure stéréotypée du gros écuyer et du chevalier efflanqué et qui vont fixer à tout jamais une imagerie du contraste qui est redoublée par le fait que l'un est juché sur un cheval, même s'il s'agit d'une rosse comme Rocinante et l'autre est juché sur un âne, et dont on verrait la première image seulement en 1618, lorsqu'un graveur, un éditeur français utilise comme frontispice de son édition de la seconde partie du Don Quichotte un bois gravé qui a ce réalisme par rapport au texte même de l'histoire, alors qu'auparavant, les bois gravés qui sont utilisés dans les éditions préalables du Quichotte, lorsqu'il y en a, ce n'est pas le cas des Madrilènes, mais c'est le cas des Lisboètes et de celles de Valence, sont toujours des réemplois d'un bois gravé utilisé pour un roman de chevalerie. Et on voit comment Felipe Mey est très fidèle à cette pratique dans ses éditions de la première et de la seconde partie du Don Quichotte, 1605-1618, et la réutilisant comme frontispice de la Commedia dans la parte de 1618. On a donc une première possibilité de connaissance par la lecture de l'un ou l'autre des exemplaires de l'une ou l'autre de ces éditions en espagnol. La deuxième possibilité est le fait que très tôt, la référence à Don Quichotte et à son écuyer va être présente dans les divertissements de cour ou dans les mascarades populaires. Et là, il y a un thème sur lequel j'aimerais m'arrêter. Je ferai une petite pause à 11 heures, comme promis la fois dernière. Un thème sur lequel j'aimerais m'arrêter parce que d'une part, il est un thème, me semble-t-il, très important pour une compréhension de comment la fiction peut sortir des pages, même des livres où elle est inscrite. Et avant les adaptations cinématographiques, avant les formes de matérialisation des héros des romans au XVIIIe siècle, on peut dire qu'avec Don Quichotte, on a le premier exemple d'un texte où les personnages sortent des pages pour s'incarner soit dans des masques, soit dans des déguisements, et donc prennent une existence matérielle, corporelle, à travers des fêtes, que ce soit des fêtes de cour ou que ce soit des fêtes populaires, des mascarades carnavalesques ou des fêtes religieuses ou des joutes aristocratiques. Et c'est là une histoire importante, puisque elle me semble surtout marquée après le Quichotte par le fait qu'au XVIIIe siècle, avec Richardson, Pamela et Clarissa, avec Rousseau, la Nouvelle Héloïse, avec Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, on a la répétition à une échelle plus grande encore de cette sortie des personnages pour qu'ils viennent occuper différentes matérialités. Ça peut être des théâtres de personnages de cire, ça peut être une iconographie peinte, ça peut être les éventails qui vont porter des héros, par exemple les héroïnes de Pamela ou Clarissa. Donc cette sorte de ce qu'un collègue américain appelait une commodification of literature, c'est-à-dire le fait que des objets, des produits dérivés, on dirait aujourd'hui à Hollywood, sont produits à partir du texte, ce qui sous-entend que les héros sortent des pages du livre, une préhistoire, une archéologie de cette présence sociale du texte de fiction, on la trouverait évidemment avec le Don Quichotte. Et la seconde raison, c'est que ici même, pas l'année dernière ou il y a deux ans, un collègue espagnol, Pedro Catedra, avait consacré toute une série de conférences à cette question, c'est-à-dire la question de la tradition parodique dans des tournois aristocratiques où on va rencontrer Don Quichotte, mais une tradition qui leur est bien antérieure, puisqu'elle commence dès les débuts du XVIe siècle, à un moment où il y a deux phénomènes qui caractérisent la Castille. D'un côté, c'est le moment où il y a une première poussée en édition imprimée des romans de chevalerie, ce qu'il appelait la Caballeria de Papel, la chevalerie de papier, connaît un de ses premiers sommets avec une multiplication des éditions, une puissance attribuée à ces romans de chevalerie comme étant capable de définir des normes de comportement, et en même temps l'accompagnant dès le temps de Charles Quint des tournois aristocratiques qui n'ont plus cet aspect guerrier ou militaire du tournoi médiéval, qui sont devenus des fêtes ou des joutes de cour et qui font place non seulement à des références aux chevaliers des romans de chevalerie, mais aussi à la parodie de ces romans de chevalerie. Et il cite dans un certain nombre de tournois du début des années 1530 la présence de figures comme, par exemple, El Caballero del Mundo al revés, le chevalier du monde à l'envers, ou bien El Caballero que da las higas a la verde, le chevalier qui donne les figues au vert, allusion un peu obscure, mais qui renvoie à quelque chose qui, lui, n'est pas obscur, qui est le rôle symbolique de la couleur verte dans les sociétés anciennes, pouvant désigner à la fois la jeunesse et ses extravagances. C'est la couleur de la folie, et un thème que suggérait Pedro Catedral serait de suivre dans Don Quichotte toutes les mentions de la couleur verte liées avec la déraison de Don Quichotte, et il ajoute que parfois, comme texte implicite, la couleur verte pouvait être associée avec l'homosexualité. Ce qui reste de cela, c'est le fait que dans des fêtes de cour qui ont la forme de tournois ou de joutes du début du XVIe siècle, la dimension de la parodie des romans de chevalerie est contemporaine de leur mise en scène dans les fêtes et de leur lecture dans ces poussées du nombre des éditions de ces textes, évidemment, qui ont une existence antérieure. Et du coup, on a pu constituer un petit corpus des fêtes de cour ou des mascarades carnavalesques dans lesquelles Don Quichotte va apparaître, matérialisé, corporalisé par des individus qui vont jouer son personnage comme étant une figure parodique après beaucoup d'autres, mais directement liée avec une publication récente, à l'intérieur de cette tradition si bien décrite par Pedro Catedra pour ce qu'il appelle à la fois la chevalerie de papier et la chevalerie en représentation. Les conférences qu'il a données ici viennent d'être publiées à Madrid, « El sueño caballeresco », le songe chevaleresque, et la chevalerie de papier, c'est-à-dire la multiplication des éditions imprimées des romans, et de l'autre côté, la représentation chevaleresque, c'est-à-dire les figures chevaleresques comme déguisement ou masque dans les tournois et les joutes, avec cet élément inattendu qui est leur propre parodie, dans certains cas avec certaines figures, servent un peu de trame de fond à cette analyse que je voudrais présenter. Et alors je terminerai dans cette première partie avec un texte qui a été souvent dans la tradition de la critique présenté comme étant justement une des illustrations de cette présence parodique d'un Don Quichotte dans une fête de cour. Il s'agit d'un texte portugais écrit par un portugais qui assiste en juin 1605, donc au milieu de l'année 1605, très peu de semaines après la mise en circulation de la première édition de Don Quichotte, qui assiste à Valladolid, qui était le lieu où la cour était présente avant de se rapatrier la même année, je crois, ou l'année suivante à Madrid. Il assiste à une fête qui est célébrée en l'honneur de la naissance de l'héritier du trône, le prince Felipe. Et ce Portugais, qui s'appelle Tomé Pinheiro da Veiga, décrit l'un de ses compatriotes qui est présent à la fête, et il le décrit comme monté sur un très pauvre cheval, en portugais un pobre quartão russo, vêtu d'un chapeau, d'une cape, de choses de velours, et précédé, dit le texte de Thomas Pinheiro da Veiga, par un Sancho Panza qui porte des lunettes et un habitu de Cristo, un habit avec la croix du Christ. Et le commentaire était de dire que dans cette fête, il y avait déjà une apparition de Don Quichotte. Et en fait, le texte, quand on le voit de près, ne dit pas cela. Il dit quelque chose qui est très puissant pour montrer la circulation de Don Quichotte. Mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas du tout du fait que ce noble qui s'appelle le Jorge de Lima Barreto avait voulu se déguiser en Don Quichotte. Ce qui s'est passé, c'est que son cheval, il utilise comme cheval un cheval dont on se sert pour tirer les voitures. Et donc, c'est l'identification de ce personnage qui est monté sur un mauvais cheval, qui est habillé avec cette tenue qui surprend, qui est identifié par le narrateur avec un Don Quichotte, et du coup, filant cette association, le serviteur de Jorge de Lima Barreto est identifié à Sancho. Ce qui est donc une preuve, non pas là, dans ce cas, qu'il y a dans la fête un déguisé en Don Quichotte, mais que la lecture pour ce Tomé Pinheiro da Veiga du texte de 1605 de Cervantes a été si forte, si prégnante, que pour identifier, pour comparer, pour donner une personnalité à un pauvre chevalier monté sur un mauvais cheval de trait, si j'ose dire, ou cheval pour tirer des voitures et non pas destrier chevaleresque ou aristocratique, était de l'identifier à un Don Quichotte. On a donc là une indication de l'immédiateté produite pour les lecteurs par la lecture de Don Quichotte, puisqu'elle leur fournit un répertoire d'images, de comparaisons, d'analogies, qui, à la manière de Don Quichotte, leur font décrire le monde réel, le monde social tel qu'il est, ou certains de ses protagonistes, comme s'il s'agissait de situations ou de héros de fiction. Alors on peut peut-être s'en tenir là pour cette première partie, si vous voulez on peut prendre 5 minutes, ça m'avait été demandé pour reprendre les esprits, et on peut reprendre à 11h10 ou la suite de cette analyse qui va nous mener à une analyse de fêtes de cour ou de mascarades populaires dans lesquelles des Don Quichotte apparaissent.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.